faire une capsule temporelle. C'est quelque chose qui permet de capturer un fragment d'une époque pour les transmettre aux générations futures.
Alors donc aujourd'hui, je suis avec Magali et Annick qui vont nous parler d'une nouvelle, comment on pourrait appeler ça, technique.
Un nouveau métier,
Tanadoula. Et je vais les laisser s'exprimer à ce sujet. Et voilà, on va assouvir notre curiosité sur cette nouvelle forme d'accompagnement. Alors, allons-y.
Donc moi, je m'appelle Magali. J'ai exercé en tant qu'infirmière pendant 30 ans, en EHPAD, puis en libéral. Et voilà, je me suis reconvertie et maintenant, je suis Tanadoula. Donc, j'accompagne la fin de vie, les deuils, les transitions de vie, voilà, avec différentes techniques.
Je m'appelle Annick Plessis, je suis infirmière depuis bientôt 40 ans maintenant, et je me suis formée au métier de Tanadoula, ça fait 2 ans, et c'est un peu la cerise, personnellement pour moi c'est la cerise sur le gâteau par rapport à mon métier, et j'accompagne les fins de vie, les deuils. Et puis, alors peut-être pas les transitions, moi je dirais pas les transitions de vie, mais en fait, j'accompagne la vie dans tous les moments que l'on peut vivre ensemble.
D'accord. Je peux vous demander chacune votre tour, en fait, qu'est-ce qui a été le déclic ou vraiment l'envie de passer vraiment sur cette particularité ?
Alors moi, en fait, j'ai eu un accident dans le cadre de mon travail et voilà, donc j'ai été amenée à réfléchir à une reconversion. Je voulais rester auprès des patients, j'avais pas envie de faire de la coordination, des choses comme ça. Et puis petit à petit, en cheminant, en faisant des formations massage pour amener du bien-être aux personnes éventuellement que je pouvais garder à domicile, j'ai fini assez naturellement par atterrir sur l'accompagnement de la fin de la vie.
Et avec, comment je dirais, quelque chose de naturel ou ça a été quand même compliqué parce que c'est pas si facile.
Non, pour moi en tout cas ça a été plutôt naturel et la formation ensuite de Tanadoula m'a permis de travailler sur ma propre vision de la mort.
Et oui,
aussi.
Oui, forcément.
Voilà.
Annick.
Et en fait moi j'ai toujours été intéressée par ce qu'était le passage de la mort. Et tout au long de ma carrière, j'ai pu observer plein de signes, plein de choses que beaucoup de monde ne remarque pas. Et je souhaitais, en tant qu'infirmière, on a des protocoles. Et donc, on est cadré. Qu'en tant que Tanadoula, nous sommes cadrés aussi, mais nous prenons le temps. D'accompagner, d'être présente, et c'est ce qui, moi, personnellement, me manque dans le métier d'infirmière.
Je vous coupe, mais c'est quoi la différence, finalement, qu'on sent entre l'infirmière, parce qu'en tant qu'infirmière, vous avez déjà dû accompagner des fins de vie, forcément.
Oui.
Voilà. Et du coup, c'est quoi la différence entre, on va dire, le rôle de l'infirmière et le rôle de Tanadoula?
Eh bien, justement, c'est ce cadre. Le cadre médical, nous avons des protocoles, nous devons suivre des règles bien précises que Tanadoula, c'est, nous sommes, enfin, tu me coupes Magali si tu ne vois pas les choses de la même façon, mais pour moi, Tanadoula, c'est être dans le ressenti, être vraiment dans la présence, mais consciente et vraiment en lien avec la personne qui est en train de partir ou la famille que l'on accompagne, dans ces moments-là.
Et alors du coup, ça veut dire que les familles, elles savent faire la différence, c'est-à-dire que quand on fait appel à vous, on fait en tant qu'infirmière ou en tant que Tanadoula, enfin je ne sais pas comment on fait la distinction finalement.
Moi personnellement, je n'exerce plus mon métier d'infirmière, donc je suis Tanadoula. Donc si on fait appel à moi, c'est pour mon rôle de Tanadoula.
Ok, mais alors du coup, est-ce que les gens connaissent vraiment ça? Parce que ça demande à être plus connu alors.
Oui, voilà, c'est le gros enjeu pour moi. J'ai démarré mon activité au mois de novembre. Et voilà, l'enjeu, c'est de démarrer cette activité en entrepreneuriat, qui est quand même différente du libéral, mais aussi de faire connaître ce nouveau métier qui n'est vraiment que très peu connu.
D'accord. Annick, ça fait longtemps
que
Tanadoula?
Eh bien, donc 2 ans.
Ah oui, quand même.
2 ans, mais quand on est infirmière, je crois qu'on est un adoula dans l'âme, donc voilà. Mais l'infirmière a un savoir-faire et la tanadoula a un savoir-être. Et le savoir-être n'est pas toujours le même quand on est infirmière que lorsque l'on est tanadoula.
Oui.
Justement à cause du cadre. Voilà.
D'accord.
Et moi, les deux m'explosent. Me mettent en bonheur en tout cas, en joie.
Et moi, ce qui m'a vraiment attirée dans ce nouveau métier, ce que j'avais perdu dans ma pratique d'infirmière, c'est redonner du temps et de la place à la personne humaine, en fait. Et remettre de l'humanité et de la douceur dans mes gestes. Et plus seulement être là, un petit peu rapidement parfois, sur des gestes vraiment juste techniques.
Alors, là, on va parler pratique, je dirais, financièrement, ça se passe comment, alors, du coup, parce que c'est pas pris en charge par la Sécu, j'imagine, cette histoire, donc ça a un coût différent?
Oui, oui, tout à fait, ça reste à la charge de la personne qui fait appel à nous.
D'accord.
Avec, sur certains volets de l'activité, une possibilité de régler en CESU ou en sous forme de crédit d'impôt.
D'accord.
Ouais. Mais donc, ça suppose quand même un coût supplémentaire. Donc, c'est vraiment une démarche de la famille de dire, je voudrais que mon proche parte vraiment dans de bonnes conditions, c'est ça?
C'est ça, oui. Une démarche de la famille, mais aussi de la personne qui va mourir. Il faut vraiment qu'elle soit aussi d'accord avec cet accompagnement.
D'accord.
Alors, concrètement, ça se passe comment, un accompagnement tanadoula?
Ça se passe comment?
C'est compliqué.
Ben non, enfin c'est en fait c'est personnalisé déjà. À chaque fois c'est différent. Et on peut, moi par exemple à la résidence où je travaille en ce moment, et ben c'est être présent, prendre soin, faire des petits massages. Voilà, être à l'écoute de la personne qui s'en va et surtout être à l'écoute de la famille, parce que si on n'a pas une famille, on va dire, sereine et, comment je dirais, qui n'est pas dans le déni de ce qui va se passer, ça peut pas bien se passer. Voilà, si on a une famille qui est en réticence d'un côté et quelqu'un qui est en train de partir, voilà, donc mon accompagnement, moi, sera plus familial que auprès de la personne qui est en train de partir. Okay. Parce qu'il faut qu'il y ait les deux éléments qui soient en connexion, on va dire.
Et alors, comment ça se passe dans ce cas-là? C'est-à-dire qu'il faut parler avec la famille, amener les choses,
oui,
c'est
oui,
ça
oui, 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 oui.
Et des fois, ça arrive que ça soit justement, parce que ça doit être peut-être source de conflit aussi, des fois, non?
Bien sûr.
Ouais. Et ça, il faut...
Tous les membres des familles ne se parlent pas toujours non plus. Donc, c'est un moment très particulier. C'est un moment très particulier. Donc, il y a la discussion, il y a l'olfactothérapie avec les huiles essentielles. Voilà, certaines huiles vont permettre à se poser, à dire certaines choses. Voilà. Et puis, il y a des moments propices aussi dans l'évolution de la personne qui est en train de partir. Il y a des moments qui sont plus propices à d'autres, de pouvoir dire à la personne qui s'en va ce qu'on a envie de lui dire. Et des fois, il y a des choses qui vont sortir et on se dit, pourquoi j'ai dit ça? Mais en fait, il fallait que les mots soient posés pour que la personne puisse partir de façon meilleure, voilà, dans un bien-être, on va dire, dans un certain bien-être.
Alors, on va dire, ça serait quoi la faculté première d'une tanadoula?
Moi, je dirais l'écoute. La bienveillance. L'écoute, mais ça peut être aussi la présence. Être là, pouvoir écouter la personne. Mais aussi, ça peut être là en silence. Parce que parfois, la personne a besoin d'une présence, mais elle n'a pas forcément envie de parler. Donc, être là. vraiment.
Et peut-être écouter, avoir une intuition, enfin, être beaucoup dans le ressenti, non ?
Tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait.
Oui, parce que cette personne peut-être ne peut pas forcément exprimer les choses, quoi, c'est ça ?
Ouais. Pour être Thanadoula, moi, il me semble qu'il faut être soi-même en accord avec la mort, la notion de mort, être à l'aise avec ça, pour pouvoir accompagner.
Et ça s'apprend ?
Ça se travaille.
C'est génial. Oui. Ça se travaille quoi ? En faisant ? C'est ça que vous voulez dire ou...
En formation, on travaille beaucoup là-dessus.
Oui.
Voilà, en exercice de groupe. Voilà. On exprime des situations qu'on a vécues, on échange dessus. Et voilà, et c'est un cheminement en fait.
Alors, je peux vous demander, c'est quoi votre vision de la mort à chacune ? En gros, comme ça ? Enfin, non, pas forcément en gros d'ailleurs.
Moi, ma vision de la mort, c'est que tant qu'on n'est pas mort, on est en vie. Et tant qu'on est en vie, il peut y avoir de la joie, des moments de joie. Si les choses sont réglées, si la douleur est calmée, si la personne est accompagnée. Et voilà, j'ai eu des exemples, moi, d'accompagnement. Où il se passait des choses très belles dans la fin de vie.
Alors, ça veut dire que du coup, quand la personne part, elle part mieux ? Comment on peut... Oui ?
Ouais,
oui ?
De façon plus sereine.
Plus oui. sereine,
ouais. Ça se sent ?
Oui.
Oui.
Et ça se voit.
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui.
Oui. Oui, oui. Eh bien, ça se voit un visage détendu, souriant,
pas de crispation.
Posé. Ouais, voilà. Voilà. Là, on sait qu'on a tout gagné.
Est-ce que c'est difficile de mourir ?
Tout dépend des conditions. Si on a quelqu'un qui est seul, qui a une maladie très douloureuse, qui... Voilà, oui, c'est difficile. Mais quand tout le monde est là autour de la personne, soit en parlant, soit en silence, et qui accompagne en fait avec le cœur, parce que je crois que l'important dans ces moments-là, c'est tout l'amour qu'on peut donner. Quand cet amour est là et que oui, il n'y a pas de douleur pour interférer, tout se passe bien.
Et alors, Annick, c'est quoi le déclic ? Ça a été quoi le déclic pour, enfin, pas le déclic, mais cette envie. Enfin, comment vous voyez la mort ? Voilà, c'est ça. Ma question, c'était plutôt ça.
Ben moi, je la vois comme un passage. Il y a un passage pour naître, il y a un passage pour mourir. Voilà. On retourne de là où on vient, parce qu'on vient bien de quelque part pour naître. Donc, on y retourne.
Ah oui.
Et j'ai eu... Alors, je peux peut-être vous donner un exemple. J'ai accompagné un week-end une résidente qui est partie. J'avais dit à sa famille si vraiment il pouvait être présent parce que je ressentais que c'était la fin. Et donc, il y avait tous ses enfants, petits-enfants, tout le monde était là. Et un soir, quand je suis partie, j'étais sur la lacra et à un moment donné, il y a... une senteur de lavande qui a envahi ma voiture et j'ai pensé que justement on était en train de distiller de la lavande et c'était pas le cas et ça m'a fait un bien fou, mais vraiment j'étais dans un cocon qui m'enveloppait dans la voiture et ça m'a fait un bien fou et tout de suite j'ai pensé à cette résidente là et le lendemain j'ai appris que la patiente était décédée. Et à mon petit... J'étais en train de prendre mon petit déjeuner et de nouveau, ce parfum de lavande qui m'a pris, mais de la même façon, c'était un cocon enveloppant. C'était vraiment... c'était bon. C'était le gros câlin, quoi. Et quelques jours... Donc, je me suis dit que la personne était décédée et que c'était sa façon à elle de venir me voir et de me dire « Coucou, je suis là ». Et quelques jours après, j'ai demandé à sa fille, que j'ai revue, lui demandant si sa maman aimait la lavande. Eh bien, figurez-vous que sa maman habitait dans une maison qui était au milieu d'un champ de lavande.
Tout s'explique.
Tout s'explique. Enfin, oui. Pour moi.
Oui.
Voilà,
oui.
Maintenant. Voilà.
Et alors donc, vous pensez que c'est un passage, et après, vous pensez qu'il y a quelque chose d'autre ? Enfin, je sais pas, après, c'est du domaine de la croyance, mais pourquoi pas ?
Moi, personnellement, oui. Et quand on observe nos résidents, les personnes en fin de vie, quand on les observe dans les... Enfin, vraiment vers la fin, il y a des signes qui ne trompent pas. Ils parlent toujours à des personnes qui sont décédées, qui viennent les chercher. C'est vrai que quand je débutais mon métier, ça me faisait sourire. Et des fois, j'en rigolais, je disais, oulala. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, mais tu es certainement ridicule, parce que eux voient peut-être des choses que toi, tu ne vois pas. Donc, c'est toi qui es bête sur ce coup-là. Et voilà, les personnes qui sont en fin de vie, je pense, c'est que mon opinion personnelle, hein, le corps change de fréquence et en fait accède à des sphères que nous ne voyons pas. Et très souvent, eh ben, ce sont les défunts qui sont venus, enfin, qui sont partis très peu de temps avant ou quelques années avant, qui viennent chercher pour réconforter, pour accompagner ce passage-là.
Vous l'avez vu pratiquement à chaque fois ou...
Ah oui. Oui. Ah oui. Oui. Oui.
Donc c'est presque vérifié, je dirais.
Oui. Enfin, après, moi, je ne vois pas les personnes. Qui sont là, mais les trois quarts du temps, oui, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui viennent dans la pièce visiter la personne qui va partir.
Alors ça se... Parce qu'il y a un dialogue qui s'instaure avec...
Oui.
Ok. Et ça semble, pour la personne, rassurant, du coup ?
Ah, complètement. Parce qu'en fait, je pense ce qu'ils ressentent, c'est une solitude, mais il y a la peur du vide. Il y a la peur du vide.
L'inconnu.
Très souvent, quand j'arrive à parler de la mort avec les résidents, parce que ça m'arrive d'en parler, derrière, il n'y a plus rien, c'est le gouffre. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce gouffre et comment on va dépasser ça ?
Et là, quand les gens vous posent cette question, est-ce que vous répondez ce que vous croyez, c'est-à-dire en disant mais il y a quelque chose, etc. Ou
non.
Parce que c'est difficile de dire ça dans le fond, parce que on ne sait pas.
En fait, je pose la question pour savoir ce que déjà les personnes croient, pensent, et puis après on peut éventuellement glisser, mais si on ne me demande pas. Ce que je pense, ou je ne dis absolument rien, parce que mon but est d'accompagner et non pas de dire il peut y avoir ça, ou voilà. Enfin, après, quand on accompagne, c'est respecter la croyance de chacun.
D'accord.
Et les accompagner justement dans leur croyance et leur.
Oui, parce que du coup, ça peut quand même. Enfin, ça aurait été un argument rassurant. De pouvoir dire, oui. Vous savez, je pense que tout ça, mais c'est vrai que c'est compliqué,
oui.
Du coup.
Mais en fait, sous forme de boutade, je leur dis, vous savez, en fait, ceux qui sont partis sont jamais revenus, c'est qu'ils doivent être bien là où ils sont. Voilà,
excellent.
Après.
Ben oui.
Voilà.
Et c'est vrai.
Voilà. Et alors, c'est vrai que ça détend toujours un peu l'atmosphère.
Est-ce que vous avez eu des expériences chacune de quelque chose qui vous a. Bon, bah, comme là, vous avez dit d'ailleurs, hein, quelque chose qui vous a bousculé et qui vous a remis en cause sur vos croyances, justement, au niveau de la mort. Bon, là, on a un exemple avec la dame à la lavande. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous sont arrivées l'une et l'autre ? Des expériences, quoi, où vous vous êtes dit, ah ouais, quand même.
Bah, en fait, moi, quand ma maman est décédée, je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Donc, ça a fait 3 ans, là, qu'elle est partie. Et elle était scopée. Et en fait, scopée, elle avait un scope pour la tension, voilà, des électrodes pour voilà l'électrocardiogramme, enfin et tout. Et donc quand elle est décédée, elle a été débranchée. Et allez, on va dire une heure après, on s'est tous retrouvés autour de son lit, mais de façon, alors, je dis pas qu'on pleurait pas, c'est pas ça, mais mon frère a toujours le mot pour rire et on essayait de détendre un petit peu l'atmosphère. Et à un moment, il y a le SCOP qui s'est remis en marche avec le cœur qui battait, quoi, alors que maman n'était plus branchée. Et elle nous a toujours dit que elle nous ferait un coucou, qu'elle nous ferait un signe, qu'elle était là, qu'elle était avec nous, et voilà.
Et ça s'est reproduit après ou pas?
Bon, il y a des petites choses, oui, qui font que.
Oui.
Ouais, ouais.
Ah ouais. Top. Oh, mais c'est vrai, je trouve que ça fait du bien.
Oui, oui, mais bien sûr, bien sûr.
Alors moi, j'ai accompagné, mais plus dans mon métier d'infirmière, où là, je m'étais beaucoup fermée à des croyances que j'avais étant adolescente. Donc, je pense que j'avais plus à ce moment-là l'ouverture d'esprit d'avoir cette sensibilité-là. Voilà. Et là, pour l'instant, je n'ai pas encore assez accompagnée pour avoir revécu des nouvelles expériences avec ma nouvelle vision. Ouais. De la fin de vie et de la mort.
Ouais. Bah, j'imagine que déjà avec la formation, il y a des choses qui ont changé, forcément, qui ont bougé.
Mmh. Oui, tout
à fait. Qu'on ne fait pas ça par hasard, je ne pense pas. Hein.
Non, sans doute. Moi, ça a vraiment été un cheminement naturel. Je ne peux même pas me l'expliquer.
C'est vrai ?
Parce que même en tant qu'infirmière, j'étais très à l'aise avec les personnes en fin de vie pour leur faire leurs soins. Par contre, à partir du moment où ils étaient décédés, j'étais très mal à l'aise vis-à-vis de ça et vis-à-vis de la famille aussi. Et
oui.
Alors que maintenant, voilà, accompagner des familles, c'est plus quelque chose qui m'entrave.
C'est une formation qui dure combien de temps ?
8 mois. Ah oui, quand même ?
Oui.
D'accord.
Un week-end par mois.
Ah oui, d'accord, sauf, c'est pas en continu.
Non, sauf au mois de juillet, juillet-août, pendant les grandes vacances, mais sinon, c'est un week-end par mois.
Okay. Et ce métier, il existe depuis combien de temps ? Enfin, concrètement, parce que j'imagine que quelque part avant que ça s'appelle Tana Doulin, ça devait déjà.
Il a toujours existé.
Oui, c'est ça.
Voilà. On parle souvent des doulas de naissance qui sont là depuis l'Antiquité, enfin qui sont là depuis la nuit des temps. Mais c'est vrai que les doulas de fin de vie, c'est moins commun. Mm. Et on commence vraiment à en parler depuis, allez, 6 bonnes années, 6-7 ans, depuis le que je dis, moi, 5-6 ans, je pense qu'on va rajouter peut-être 2 ans. Et oui, ça commence à se développer. C'est très récent.
En Europe.
En Europe.
Ça nous a été ramené des pays anglo-saxons par Rosette Poletti, qui est une infirmière suisse qui a sa propre école, qui est pionnière en soins palliatifs en Suisse. Voilà, qui a créé son école de Tana Doula et elle nous a ramené ça de...
Des maisons de fin de vie aussi.
Ouais. Alors, justement, parlons de fin de vie. Comme en ce moment, on en parle beaucoup, justement, pour aider les personnes à partir. Alors, vous en pensez quoi, vous, du coup, de ça ?
Sujet compliqué ?
Oui.
Oui ?
Oui, oui. Oui, parce qu'on s'aperçoit quand même que... les personnes qui sont vraiment bien accompagnées ne demande pas l'euthanasie. Mais je pense que c'est la douleur qui... Souffrir moralement, physiquement, c'est ça qui est le plus compliqué. Et je pense que si on avait des médecins... Alors, Annick, tais-toi, mais si on avait un peu plus de médecins à l'écoute de leurs patients...
Ben quoi.
On va pas s'arrêter aussi bon chemin.
On aurait moins tendance à vouloir demander l'euthanasie.
Ah oui.
Oui.
Ouais, parce qu'en fait, on peut supposer que si c'est bien accompagné, il n'y a pas de douleur, donc du coup, il n'y a pas le besoin d'accélérer les choses, c'est ça, ça.
Ouais.
Quoi qu'il en soit, on n'accélère rien du tout. Hein. Quand on voit vraiment que... les résidents, enfin moi je parle des résidents puisque je travaille en EHPAD, mais on les aide à s'endormir.
Oui. Oui, c'est ça. Ce qui est bien.
Et la sédation.
Oui, la sédation.
Continue. Oui,
ça se principe.
Oui.
Oui, ça c'est autorisé dans le cadre de la loi.
tout à fait.
C'est plutôt bien, je trouve. Hein.
Oui, tout à fait.
Pas laisser les gens souffrir non plus. Enfin.
Non. Mais ce qui serait bien, c'est que cette sédation puisse être prise en compte avec les familles. Je ne sais plus, ben c'est à une réunion où j'ai entendu dire qu'il y avait une famille, il y avait une dame qui disait voilà, qu'elle n'avait pas été prévenue de la sédation de son fils, en plus. Et du coup, quand elle est arrivée en catastrophe à l'hôpital, et ben, elle n'a pas pu dire au revoir à son fils. Enfin, voilà. Et je trouve ça grave que le corps médical... voilà, ne réunissent pas toute la famille pour qu'elle puisse dire au revoir avant qu'elle ne puisse plus.
Ça semble tellement une évidence que c'est même étonnant que...
Je crois que c'est tellement évident qu'on n'y pense pas.
Oui, c'est ça peut-être aussi.
Ah ouais.
Du coup, ça devient banalisé peut-être
tout
dans,
à fait.
Dans les structures.
C'est ça.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de partager sur ce métier
qui pourrait déjà donner envie à des vocations? Est-ce que déjà ça manque comme métier? Est-ce
bien
que
sûr.
Ouais.
Ah oui.
Oui.
Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'on a envie de... Enfin, qu'est-ce que moi j'ai envie de partager? Je regrette que dans notre société, alors je ne sais pas si c'est société ou culture, le temps de la vieillesse et de la fin de vie ne soit pas pris en compte. Je crois qu'on est laissé pour compte justement. Et que ben le métier de Tanadoula arrive à pallier un peu ce temps-là.
Qu'est-ce qu'il faudrait dans l'idéal?
Changement de structure ou quoi? Qu'est-ce qui est choquant finalement?
Une ouverture, davantage d'ouverture. Mais même des structures, hein, des EHPAD, des... Moi, je travaille dans un EHPAD où ma directrice n'est absolument pas ouverte au fait que je sois à Tanadoula. Pour diverses choses, je voudrais faire des ateliers, enfin bénévolement hein, bien sûr, pour les directives anticipées, pour que les familles puissent parler entre elles du sujet de la mort, parce que combien de fois on a des résidents qui viennent à décéder, les familles disent « ah ben je sais pas quoi faire, je sais pas ce qu'ils voulaient, je sais pas », alors que ça serait bien déjà de pouvoir en discuter en famille de tout ça. Et de privilégier des temps de partage.
Pourquoi il y a un tel blocage finalement? Parce que une directrice d'EHPAD, je veux dire, elle en voit. Enfin, je veux dire, votre vie, c'est aussi en rapport avec la fin de vie, quoi.
Bien sûr.
Donc c'est bizarre. Ce...
Eh bien, parce que justement, le domaine de la mort est un sujet tabou et que il faut pas en parler. Il faut pas. Et puis qu'une infirmière Tanadoula, ben, elle a d'abord, la casquette d'infirmière et Tanadoula, c'est...
C'est peut-être une peur personnelle, en fait.
Certainement. Oui. Oui, mais on n'arrive pas à faire bouger quand même les structures pour autant. Enfin, moi, de l'intérieur, j'y arrive pas, en tout cas.
Il faudrait déjà réintroduire cette notion de mort et voilà. On y va tous, donc autant prendre les devants, penser à quelques dispositions. Évidemment, on ne va pas penser tous les jours à « on va peut-être mourir demain, sinon on ne vit plus ». Mais voilà, des choses comme rédiger ses directives anticipées, dire à ses proches ce qu'on souhaite pour ses obsèques, si voilà, on souhaite être enterré ou pas, une cérémonie religieuse ou laïque, enfin voilà, des petites choses. Après, il y a des gens qui vont plus loin, qui préparent tout. Ça peut être très chouette et soulageant aussi pour les familles. Mais vraiment, c'est le professeur Régis Aubry qui a œuvré toute sa vie pour les soins palliatifs. Et il dit qu'il faut réintroduire cette notion de mort dans la société dès le plus jeune âge. Voilà, que le développement des unités de soins palliatifs, etc., ça, voilà, on peut encore développer, mais ça aura une limite. Donc il faut réintroduire cette notion dans la société, il faut développer le bénévolat d'accompagnement et pouvoir faire accéder à ces nouveaux métiers de l'accompagnement que sont les Tanadoula.
Quand on dit réintroduire l'idée de mort, mais en même temps, tout le monde le dit ça. Ouais, on sait bien qu'on va mourir. Donc tout le monde le sait.
Ouais.
Donc en fait, est-ce que c'est vraiment cette notion qui doit être réintroduite? Ou c'est la notion de comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que la mort, en fait? La réflexion sur la mort, peut-être qu'il y a à réintroduire, quoi. Ouais. Parce que mourir, oui, ça c'est sûr, on sait qu'on va y aller. Mais je trouve que quand on est jeune, On vit comme si on était immortel.
Oui, c'est sûr. Oui.
Mais c'est peut-être nécessaire, je ne sais pas d'ailleurs. Peut-être.
Mais la mort fait partie de la vie. C'est la vie.
Et oui, c'est ça, c'est la vie.
C'est la vie.
Donc peut-être réintroduire, pas l'idée de mort, l'idée de vie.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Peut-être, je ne sais pas.
Oui, oui. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé partager le métier de Tanadoula dans les écoles. Mais les écoles, alors pour moi, c'était les écoles de soignants. Que ce soit aide-soignant, infirmière, auxiliaire de vie. Voilà, moi, vraiment, j'aurais bien aimé, par ce biais-là, pouvoir accéder et démystifier aussi la mort. Parce que combien nous avons d'élèves, alors moi, je parle d'élèves infirmières, qui me disent, parce que moi, chaque fois, j'essaie de voir un peu où est-ce qu'elles en sont avec dans ce domaine-là. En fait, il y en a qui me disent, en fait, moi, j'aime pas, et je vais jusqu'à appeler mon terrain de stage pour savoir s'ils ont beaucoup de morts à l'instant T où je vais y aller. C'est une peur, c'est... Alors, comment peut-on prendre quelqu'un en charge, le soigner, si on a peur de la mort?
Et alors, la Tanadoula, elle s'occupe vraiment que la fin de vie, ou aussi, par exemple, quelqu'un qui meurt prématurément, un enfant, quelqu'un de jeune, enfin, qui n'est pas prévu. Est-ce que la Tanadoula peut aussi avoir ce type d'action avec la famille pour, faire un travail sur la mort, finalement?
Oui, tout à fait. On accompagne aussi les deuils, en séance, en cabinet, par exemple. Donc, ça peut être un deuil périnatal qui est aussi pas mal écarté de la société. Ça peut être le deuil animalier. Ça peut être le deuil d'une situation de vie. Oui, le suicide aussi.
Oui. Mais moi, personnellement, je sais que je ne m'aventurerai pas sur certains terrains, que je ne pourrais pas, par exemple, le deuil périnatal, je ne pourrais pas accompagner, parce que ça me touche de trop. Même si, personnellement, je ne l'ai pas vécu, mais c'est quelque chose que je ne pourrais pas. Suicide, pareil.
Ah oui.
Oui, les fins de vie, je crois que chez moi, c'est les fins de vie logiques, entre guillemets, ou pas, mais plus ou moins attendu. Et puis transmettre.
Oui, donc la rupture de vie violente, finalement, c'est quand même compliqué à gérer.
Oui.
Mais... Parce que là, ça suppose vraiment de travailler pratiquement qu'avec la famille, puisque la personne n'est plus là, donc c'est déjà trop tard.
Oui.
En fait, c'est ça. Oui, ça, c'est plus difficile pour
moi. C'est... Oui, ça l'est.
Moins.
Non, moi, je. Oui. Moi, deuil périnatal, c'est quelque chose que j'ai envie d'accompagner parce que justement, je sais qu'il y a des gros manques d'accompagnement, que parfois l'enfant est juste né et décédé, ou il est mort in utero, et parfois il n'y a même pas de sépulture, et voilà, c'est difficile pour les parents en particulier. Après, le reste de la famille, parfois, ils n'ont pas connu l'enfant, donc c'est.
C'est
moins visible, mais c'est vraiment des traumatismes pour les parents et la maman.
Donc ça, peut y avoir des demandes de Tanadoula aussi pour ça, aider les familles à passer des caps. C'est pas forcément que la personne qui décède. De toute façon, dès le départ, si j'ai bien compris, c'est de toute façon un ensemble. C'est jamais éloigné de... Voilà. Et quand la personne n'a pas de famille, du coup,
ça reste... Ça doit arriver, non ? C'est rare, peut-être ?
Ça peut arriver.
Oui, ça peut arriver.
Ouais.
Après, on est là peut-être pour l'aider pour ses papiers, pour ce qu'elle n'arrive pas à faire seule. Je sais que... Alors, il faut savoir, c'est une grosse parenthèse quand même, que dans la Drôme, nous sommes un joli berceau de Tanadoula.
C'est vrai ?
Ah,
oui.
Mais oui ! Oui. Moi, de ma session, nous sommes quatre. Dans la tienne...
Moi, j'ai une collègue qui vient de déménager dans le secteur de Nyons. Donc, voilà.
Donc, on doit être une petite dizaine de Tanadoula, quand même.
Alors qu'en France ?
En France, on doit être là une petite centaine. Parce que depuis que moi, je suis...
Ah, en plus.
Plus, parce que j'ai rencontré une Tanadoula qui s'est formée dans notre école. La première année de la formation, elles étaient 8. Et nous, cette année, on était 32 en distanciel et ils étaient une trentaine en présentiel.
Ok. Donc, oui. Donc, voilà, on les dépasse. Oui.
D'accord.
Oui. On souhaite vraiment travailler en réseau pour ne pas rester seul et puis pour être de plus en plus créatif, je crois. À plusieurs cerveaux.
Peut-être pas rester sur ses acquis aussi.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. On essaie de s'accompagner les unes les autres quand on peut. Et puis...
Donc, vous avez quoi comme réseau, du coup, pour rester en lien et pour...
En fait, moi, personnellement, je travaille pas mal avec Thanatosphère. Enfin, avec Agathe, surtout, qui, elle, a les pompes funèbres Kern. Donc, chaque fois que je peux travailler avec elle... C'est un grand plaisir parce que je sais que le après, c'est marrant parce que pour moi, il y a un après de toute façon. Et Agathe est la personne qui est dans le respect le plus total du après. Donc c'est comme si je lui filais mon bébé, quoi. C'est,
Oui. Elle est sûre?
Eh ben, sur Roman, sur Valence, sur Dif, hein, les environs, quoi.
Ouais, d'accord.
Valence et agglomération.
Ok. Et donc, je voulais juste demander, on n'est pas obligé d'être infirmière, hein, pour...
Non. Mais, par contre, il y a un prérequis, oui. Et de plus en plus... comment dire...
Pointu ?
Oui. Oui, enfin, pointu.
Moi, j'ai dû, il faut rédiger une lettre de motivation avec, qu'est-ce qu'on a traversé comme deuil, qu'est-ce qui nous amène à venir dans cette formation.
Je pense qu'il faut avoir connu le deuil pour pouvoir faire la formation, parce qu'on ne peut pas se former sur quelque chose que l'on ne connaît pas, comme on ne peut pas accompagner quelque chose que l'on ne connaît pas non plus.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Allez, quelque chose de joyeux.
Oui, c'est joyeux.
Non, mais de vraiment joyeux.
Moi, je fais une petite parenthèse en disant que j'accompagne aussi des personnes dans le cadre de la maladie cancéreuse. Parce que le cancer, c'est une succession de deuils. On vous l'annonce, c'est le deuil de votre bonne santé. Ensuite, vous devez arrêter de travailler pour vous soigner, souvent. C'est encore un deuil. Et voilà, on ne peut plus faire certaines choses à la maison parce qu'il y a les chimios, on est trop fatigué. Voilà, et ainsi de suite. Et jusqu'à la rémission, où là, on vous dit d'un seul coup, tout va bien, vous êtes guéri, entre guillemets. Et c'est encore un deuil parce qu'en gros, on vous dit, reprenez votre vie normale. Alors que pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années, il y a eu beaucoup de monde là à votre écoute pour les soins, les consultations, et même la rémission dans le cancer, c'est aussi un deuil.
C'est ce qu'on pourrait appeler un stress positif ou quelque chose comme ça, non?
Je sais pas si vous voulez quel est
le bon. Ouais, mais
c'est compliqué en fait de passer de choses à d'autres.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça.
Ouais. Donc
la maladie finalement.
Ouais, voilà. Donc voilà, moi j'étais partie sur accompagner aussi les personnes atteintes de cancer. Et puis finalement, les premiers contacts que j'ai eus de prise en charge, c'était des patients atteints de la maladie de Charcot.
Okay.
Donc ça, pour le coup, c'est un public que j'avais pas vu venir, mais effectivement, qui a aussi toute sa place dans cet accompagnement parce que la maladie de Charcot, on en connaît l'issue.
Oui, c'est ça. Ouais.
Voilà.
Après, alors là, du coup, le suivi peut être sur plusieurs années.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Ouais.
Et alors, ça se présente comment? Enfin, j'imagine que tu es entrepreneur, c'est ça? Enfin...
Je suis dans une coopérative d'entrepreneurs.
Ok.
Voilà. D'accord. Pour éviter l'isolement de l'auto-entrepreneur, pour pouvoir collaborer. Et puis aussi pour me décharger de cette partie administrative que j'avais en libéral et dont je n'ai plus envie.
Ah oui, d'accord.
Et donc, du coup, comment on pourrait dire ça? Les gens t'appellent pour prendre rendez-vous et t'as un suivi comme ça, peut-être une fois par mois ou selon la personne.
Voilà, je vais une première fois rencontrer la personne avec sa famille pour déjà faire connaissance, voir si ça peut matcher entre eux et moi, parce que c'est important. M'assurer que la personne est bien d'accord pour l'accompagnement, que c'est pas uniquement la famille qui le demande, et puis voir quels sont leurs besoins en termes de d'accompagnement, de petits soins. Moi, je fais du, voilà, je fais du massage bien-être. J'utilise aussi beaucoup les huiles essentielles. Je fais des soins de chaleur. Et puis, voilà, voir en termes de périodicité, s'ils veulent que ça soit une fois par semaine, deux fois par semaine, une fois tous les trois mois, si c'est au tout début d'une maladie grave, pour commencer un processus d'accompagnement plus en douceur. Voilà.
Et donc les gens par exemple qui ont des maladies comme ça à l'issue, on va dire fatale quoi, enfin disons qu'il n'y a pas vraiment d'issue, est-ce qu'ils sont suivis ordinairement, je dirais, en dehors de vous et de, il y a un psy, il y a un truc, il y a quelque chose qui soutient?
Oui, souvent il y a quand même les psychologues qui interviennent dans leur parcours de soins.
Oui.
Ouais. Après, une fois que le dernier monsieur que j'ai vu à domicile, il était suivi en HAD, en hospitalisation à domicile. À quelle fréquence il avait accès à la psychologue, par contre, ouais, je saurais pas dire.
Ouais, donc là, moi, je dirais presque la tanadoula, elle a toute sa place, quoi.
Tout à fait. Hein, bah oui, bah oui. Parce qu'il y a l'écoute.
Et ça. On se dit un mot de la fin, je sais pas. Qu'est-ce que...
Moi, j'ai envie de dire que, voilà, même dans ce moment de la fin de vie, qui souvent quand je dis, j'explique ce que je fais, on me dit, ah, oh, c'est triste ça. Ben, en fait, non. Il y a moyen d'amener des jolis moments. Des moments de joie, voilà, avec une taladoula par exemple, un truc sympa, on peut écrire des petites cartes à ses proches qui leur seront remises au bout de 3 mois, 6 mois après le décès, et hop, ça fait un petit rappel. Voilà, de même que quand on sait que ça va être la fin, si on est encore un petit peu alerte, on peut organiser, réunir sa famille, ses amis, pour un peu un dernier moment de fête et de joie, donc on peut aussi contribuer à ça.
Donc finalement, c'est source de joie, tanadoula.
Voilà, j'ai envie d'amener de la joie ouais, dans ce que je fais. Et je sais très bien que dans certaines situations, ça sera compliqué, voire impossible. Mais ouais, moi, là, j'ai envie de finir avec la joie.
Moi, ben, depuis presque une année, j'accompagne une personne qui avait qui a toujours un cancer du sein stade 4. Et qui avait un pronostic vital engagé, qui n'était pas bon du tout. Et elle devait décéder quelques semaines plus tard, voire quelques mois plus tard. Là, ça fait presque un an. Et cette dame, et ben moi, ce qui me met en joie, c'est le sourire magnifique qui illumine son visage chaque fois que l'on se voit, chaque fois que l'on se quitte. Après 7 heures ou même plus d'accompagnement que l'on a par mois. Et je trouve ça magnifique. Et cette dame a repris le cours de sa vie, elle est bénévole aux Blues Roses, elle reprend sa voiture, elle va faire ses courses, elle veut reprendre ses cours de tai chi. Et vraiment, merci.
Ouais, on peut dire merci au tanadoula, je crois. Hein.
Ben oui, aussi. Ben, aussi,
qu'est-ce
que t'en penses?
Oui, faut pas hésiter.
Oui, tout à fait. Oui.
Bon, on est très heureuse de faire ce métier, en tout cas.
En tout cas, c'est un très beau métier. Ouais. C'est un très beau métier.
On se laisse là-dessus? Merci à vous deux.
Merci
à vous.
On n'est pas vraiment d'ici.
C'est quoi toi, c'est quoi ton pays?
Si on se dit qu'on n'a pas tout réussi.
C'est où toi, c'est où ton ici?
C'est peut-être une étoile filante, un bout de tissu, une tente. C'est peut-être une villa sur les pentes, un bout de toi, une attente.
tout mais pas l'envie.
C'est quoi toi, c'est quoi ton avis?
C'est où toi, c'est où ton ainsi?
C'est quoi toi, c'est quoi qui t'adoucit? C'est peut-être le miel qui t'apaise, ou peut-être le ciel, les falaises, ou au bord de la mer, un îlot. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
Dans l'au-delà, tout là-haut.
On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
Dans les nuages indigo.
On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
Dans l'au-delà, tout là-haut.
On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. S'arranger,
on sera demain.
Qu'on ira glisser sur les sommets.
Aujourd'hui c'est certain.
On se dit qu'on remonte, on descend.
Hier n'est pas l'instant.
Regarde, on résiste, on reprend.
Au fond,
c'est rien. Et dans quel regard liras-tu? Sur quel visage inconnu? Que les voyages à venir imprévus sont des pages à lire non lues. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
Dans l'au-delà, tout là-haut.
On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
Dans les nuages indigo.
On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
Dans l'au-delà, tout là-haut.
On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
Le désert nous tient compagnie.
La mer nous éloigne, nous unit.
Le ciel nous rappelle chaque nuit
que la partie se joue réunie. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
Temporelle.
Merci.
On ferme la capsule temporelle et on se donne rendez-vous le mois prochain.